avez-vous des questions, commentaires, cas personnels?
Moi, je ne peux pas répondre à tout ça, mais non, c'est super. Je découvre un univers que j'ai tout juste touché du bout du doigt. Je me posais des questions. Je vois qu'il y a beaucoup en traitement de texte, etc., mise en page. Est-ce qu'au niveau de la compta et tout ça, on trouve du libre aussi?
Au niveau de quoi?
De la comptabilité, gestion.
La comptabilité, oui, je crois qu'il y a des solutions.
Je pose la question parce que là, nous autres, on est rendus, on change de très brièvement de logiciel compta. On était sur 2011. On est passé à 2017 avec Sage Compta, puis maintenant il faut payer. Il y a comme une location par année de 300 pièces. Donc là, ça change la donne. J'ai l'organisation aussi. Ça me questionne là-dessus. Est-ce qu'on a les logiciels Compta qui ont.
Celui qui est le plus proche de 5 comptables, c'est NuCash. NuCash, Cash, le grand comptable. Vous n'avez peut-être pas toutes les fonctionnalités de
comptable.
De simple comptable, sage comptable, ça dépend aussi si vous utilisez une module de paie, ce genre de trucs-là, mais sinon pour la comptabilité, ce qu'on appelle à double partie, là, c'est-à-dire avec actif, passif, réduit charge, NuCash actuellement fait la job.
En tout cas, la gestion de paie, par exemple.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a moyen de. Si on parle de la gestion de paie avec toutes les retenues calculées automatiquement, à partir de ça, je pense pas qu'il l'aille. Donc, mais souvent, les petits organismes qui font gérer la paie à l'extérieur par un fournisseur, puis tout ce qu'ils font dans leur registre d'identité, c'est de rentrer les rapports qu'ils reçoivent du fournisseur extérieur. Fait qu'à ce moment-là, NuCash fait le travail. Mais si le but, c'est d'avoir tous les calculs des retenues à l'interne, ça, c'est à vérifier, je pense.
Encore là, il y a peut-être, je ne le connais pas, ce logiciel-là, mais il y a peut-être possibilité de le paramétrer. Mais là, c'est ça. C'est une job de paramétrage ou sinon, il y a peut-être des extensions qu'on peut ajouter. Mais là, c'est ça. Il faut se mettre les mains dans le moteur puis il faut le faire soi-même ou le faire par quelqu'un qui sait. Ouais.
J'ai deux questions.
Ah,
la première est, je me sens un peu bête là, mais ça m'arrive tous les jours. Quand je cherche un logiciel libre, je ne sais jamais si je suis au bon endroit et si je vais finir par télécharger un gros virus. Ou si c'est comme... quelque chose, la bonne chose. Est-ce que tu as des tips comme une façon de vérifier la légitimité un peu?
Bien, le mieux, c'est toujours d'aller sur le site de l'organisme ou du groupe qui produit le logiciel. Donc, ça, c'est vraiment quand tu es sur le site en question. Après ça, moi aussi, je me ramasse dans cette situation-là où des fois, tu vas comme sur un site de téléchargement. Il y en a un, je pense, c'est quoi? C'est 01.net ou un truc comme ça. Il y a des sites qui regroupent un peu beaucoup de logiciels qu'on peut télécharger. Puis là, c'est toujours... Tu n'es jamais sûr dans mesure où tu cliques sur le lien de téléchargement. Puis là, des fois, il y a une pub qui apparaît ou ça te redirige vers une autre page. Puis c'est comme un peu sinueux comme parcours. J'ai pas de réponse précise par rapport à ça. Moi, le seul temps où je me sens comme « secure » dans mes bottines, c'est quand je suis... sur le site du groupe qui a vraiment développé qui a développé ça. Après ça, un site comme Framasoft, par exemple, lui va te donner, va te référer directement au site où tu peux télécharger le logiciel en question. Fait que c'est Framasoft sont fiables, donc là, tu pars d'une source qui est fiable, tu as plus de chances de te rendre au bon chemin sans avoir trop d'écueils. Mais c'est une bonne question parce que moi aussi, mais tu sais, moi personnellement, bon, j'ai fermé mon truc, là, mais moi je suis un peu cowboy pour ça. Fait que tu sais, j'ai un passé plus ou moins louable par rapport à ça. Fait que c'est ça.
Mon autre question, c'était en général, c'est assez dur de trouver le fournisseur, la personne qui va pouvoir configurer le logiciel.
Oui.
Puis une fois que tu l'as trouvé, c'est encore plus dur de savoir si la personne te bullshit un peu. Tu sais jamais si la personne a vraiment utilisé la chose avant ou pas. Ouais. Est-ce que tu as comme un réseau de personnes, un groupe Facebook?
C'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Il y a quelques années, c'est comme ça que j'ai connu Parker d'ailleurs, j'avais lancé, mis sur pied une coopérative de services techniques pour essayer un peu de donner une base un peu plus solide aux organismes. Un interlocuteur qui me dit, moi j'étais comme l'interface entre les développeurs, les organismes communautaires. Bon, ça, le projet n'a pas fonctionné à l'époque. C'est pas une question facile. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme un mécano, tu sais. Ton auto fait un drôle de son, tu vas voir le mécano, si tu connais pas ça, il va te dire ce qu'il veut, puis toi, t'es là, puis tu sais pas. C'est un peu la même chose, je pense, pour ça. C'est sûr qu'il y a des groupes, tu sais, qui... j'essaie de voir, faudrait... ça, c'est le genre de question, tu sais, si tu voulais avoir... Reprenons un truc. Partir d'une source fiable. Moi, je te dirais, tu sais, la meilleure personne que je connais, là, tu sais, comme référence de libre, c'est Mathieu Gauthier-Pilote de Facile. Et je te dirais, comme, contacte quelqu'un qui est dans un groupe comme ça, qui a pas, lui-même, il est consultant, je ne sais pas exactement c'est quoi son champ d'expertise, mais lui connaît à peu près tout le monde. Entre parenthèses, probablement de fiable. T'sais. Fait que je te dirais, pose-lui la question à lui, s'il est à peu près la personne qui connaît le mieux l'écosystème du libre au Québec. Mais après ça, t'sais, la question d'être pris avec un fournisseur que tu ne sais pas trop, tu n'as pas de comparatif, puis des fois, après ça, la personne n'est pas capable d'aller la rechercher. C'est un problème qui est global parce que, tu sais, quand tu es petit, tu as juste des besoins qui sont ponctuels. Donc, tu ne peux pas faire affaire avec une grosse boîte qui a plus une pérennité dans le temps. Quoi que ce soit parce que tu fais affaire avec une grosse boîte que tu vas être bien traité non plus. Vraiment pas, en fait. Fait que c'est vraiment un problème. C'est un milieu où c'est beaucoup de petits joueurs. Il y a plus ou moins de regroupements. Moi, j'ai essayé de le faire, de regrouper des services pour donner un visage unique aux organismes, mais ça a pas fonctionné économiquement. C'est pas une situation qui est facile. Moi, j'ai pas de réponse particulière à ça. Toi, tu saurais-tu?
Moi, je dirais une source fiable, sûr. Puis deuxièmement, si c'est possible d'avoir des temps de travail,
ouais,
sur la journée de fond, ou des références, tu peux aller il y a une chose que parfois les groupes vont faire, c'est d'aller chercher un étudiant. Un étudiant en TI qui vient de terminer ses études, moi je ne ferais pas ça en fait. Je déconseillerais. Souvent les étudiants ils viennent avec un. Ou des étudiants en stage qui veulent faire, qui, pour leur stage par exemple, ils doivent installer une certaine type de base de données, quelque chose comme ça. Souvent, et c'est quelque chose de très spécifique dans lequel eux, ils veulent apprendre cette plateforme-là, puis si ce n'est pas effectivement adapté aux besoins du groupe, puis souvent, effectivement, donc là, ils ont fini leurs études, ils s'en vont ailleurs, puis le groupe est laissé avec un espèce de machin à moitié fini. Donc ça, c'est on a déjà toujours trouvé des groupes qui se sont trouvés dans cette situation-là. Ce que je pourrais dire pour ta première question, c'est que il ne faut pas se confondre entre le logiciel libre et le freeware et le shareware. On trouve souvent sur des sites de téléchargement comme cnet.com, ce genre de sites qui offrent des logiciels gratuits. Un logiciel gratuit, ce n'est pas la même chose qu'un logiciel libre. Le logiciel gratuit, c'est quelque chose qui est gratuit, mais le code source n'est pas ouvert. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça ne marche pas, ça se peut qu'il y ait des pubs, ça se peut qu'il y ait des virus, ça se peut qu'il y ait des... Et si c'est gratuit, si quelqu'un t'offre quelque chose gratuitement, souvent il y a un catch. Donc c'est souvent le cas dans le monde technologique aussi. Les freeware qui sont complètement libres, free, totalement clean, net, c'est rare. Donc, shareware, c'est la même chose, c'est un site pour un petit don, ou il faut que tu cliques pour, par exemple, charger ton moteur de recherche à Yahoo. Il y a une espèce de bundle où, on t'offre une autre logiciel gratuitement aussi, puis c'est ce logiciel-là, finalement, ça sert à rien, ou c'est quelque chose d'autre. Donc, il faut vraiment faire la différence, puis comme Marc a dit, si vous préférez les sites, des développeurs, des logiciels, ne pas aller sur des sites de téléchargement.
Il y a un truc aussi que j'ai pas mentionné, c'est une super distinction, j'aurais dû en parler, mais merci de le mettre, là, en logiciel libre versus freeware ou shareware. Un autre truc aussi, qui est quand même bien d'avoir conscience de, c'est que que ce soit Wikipédia, OpenStreetMap, WordPress, LibreOffice et tout. C'est des communautés de développeurs qui vraiment font les choses gratuitement, la plupart du temps, là, vraiment sur leur temps. Puis c'est pas quelque chose qui fonctionne super bien. Je pense que c'est une culture qui est encore à établir, mais ça peut être un geste ça se dit pas de façon non genrée, mais de gentleman. Ça peut être un geste de bonne volonté. C'est un système de don, dans le fond. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là développent des trucs pour nous, puis pour que le projet continue, des fois, ils ont besoin d'un minimum d'argent en termes d'administration et tout. Donc, Wikipédia a fait une fondation, OpenStreetMap ont une fondation qui sont souvent minimes là, en termes d'administration, mais juste qui permettent d'avoir un peu d'argent pour faire rouler le truc. Si on utilise beaucoup un truc, puis qu'on l'aime beaucoup, puis qu'on veut soutenir le projet, ça peut être sympathique des fois de faire un don, même des fois minime, mais juste comme une reconnaissance. Mais il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, c'est vraiment juste un geste de bonne volonté. Vraiment, c'est un modèle économique qui est très frugal, je dirais, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sur un logiciel libre que j'utilise quotidiennement, je te demandais si tu allais me présenter, c'est KeePass, parce que celui-ci, quand j'ai découvert, il a répondu à pas mal de besoins. C'est un logiciel de gestionnaire de mots de passe. Vous savez, un problème classique qu'on a, c'est que tel site, tel logiciel demande de retenir un mot de passe, et puis un autre mot de passe ici, un autre mot de passe encore, et puis un des réflexes, c'est d'utiliser toujours le même, et puis tel service se fait hacker. Puis votre mot de passe que vous avez mis là, il pourrait être testé par les pirates sur tous les autres services, donc vous risquez de perdre beaucoup. Donc ce n'est pas une bonne pratique. Le mieux, c'est quand même d'avoir un mot de passe différent par service. Mais dans ce cas-là, on se retrouve avec ça peut facilement dépasser la centaine, donc c'est ingérable. Donc KeePass, c'est une espèce de petite boîte qui est elle-même protégée par un mot de passe unique. Si vous mettez votre mot de passe dedans, ça l'ouvre, et puis dedans, vous avez tous vos mots de passe identifiés par le logiciel, donc c'est super pratique. Puis au niveau de la sécurité, parce qu'on se dit, bon, oui, mais si ce truc-là se fait craquer, on perd tous nos mots de passe d'un coup. Donc il y a deux modes de sécurité, on peut rentrer soit un mot de passe, soit on peut l'attacher à un fichier, quelque part sur notre ordinateur, ou les deux. Donc on met le mot de passe, on présente le fichier qui est caché sur l'ordinateur, et ça permet de l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique, parce que c'est un gros, gros besoin. La gestion des mots de passe, on vit avec au quotidien, et ça permet de faire une gestion plus saine.
Tout à fait.
Moi, ça m'arrive. Celui-là, c'est il faut en retenir un au minimum, et c'est celui-là qu'il faut garder en tête. Ou alors tu le notes quelque part. C'est ton proto mot de passe, c'est celui pour ta boîte.
Et d'ailleurs, si tu, en termes de réseau de sécurité, souvent ces services-là, moi je l'utilise aussi. Donc si tu te connectes à partir d'un autre endroit qui n'est pas chez toi ou au bureau, à ce moment-là, ça va pas te permettre ou ça va te demander une vérification. Donc, c'est assez sécuritaire dans le sens où la personne va avoir vraiment besoin de soit rentrer chez toi ou capter ton adresse IP dans quelque sorte pour rentrer dans la boîte.
Mais là, je ne sais pas si on parle du même. Celui que tu parles, c'est encore plus puissant parce que tu peux accéder à la boîte à distance. Moi, je parle de KeePass. Comment ça s'appelle ton système?
LastPass.
LastPass. Ça a encore mieux en fait. Donc, suivez par cœur, c'est encore plus fort.
Mais ça fonctionne que pour ton.
Celui que je connais, c'est que pour un ordinateur. C'est une boîte qui est dédiée à un ordinateur, mais le système de Parker, je pense que c'est plus ouvert que ça. Donc, du coup, je vais creuser sur l'aspect.
C'est pas la même chose, mais c'est un des avantages que nous avons.
Est-ce que ça marche sur mobile?
Ça marche sur mobile.
Ouais, donc, tu as ton Facebook mobile, ton Facebook sur ton laptop, que le système il sait que.
Oui, parce que tu peux autoriser certains ordinateurs.
Ok, c'est bien.
Il est en local.
Mais l'espace, je ne crois pas que c'est.
Non, c'est okay. Il n'est pas en local. Donc
c'est vrai. Gratuit, mais c'est pas du.
Alors que lui, c'est en local.
Ah, mais les gars, on va faire une mise en action. Si vous pourriez m'envoyer le lien, les deux. Quand on a eu la dernière rencontre, il y avait des gens qui avaient comme dit « Hey, ça serait cool qu'on ait comme un groupe Facebook pour continuer à échanger des choses. » J'en ai fait un. Donc, de deux choses l'une. Si je n'ai pas déjà votre courriel, si ça vous tente, que je vous tienne au courant, vous pouvez juste mettre votre nom puis vos coordonnées sur la feuille qu'il y a là. Puis ce que je ferai, c'est que je vous enverrai un courriel, puis je vous enverrai le lien. J'ai créé un groupe comme juste pour qu'on puisse échanger des choses. Puis, si vous m'envoyez, vous êtes déjà sur le groupe parce que je vous ai ajouté en partant, mais ou sinon, publiez-le, si vous voulez, directement sur le groupe pour qu'on puisse comme... Le but de ce groupe-là, dans le fond, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Là. C'est juste pour qu'on puisse continuer à s'échanger des choses, si on a des questions, qu'on puisse, dans le fond, juste former une genre de petite communauté de gens des TI, puis qu'on puisse s'entraider. Là. C'est vraiment informel, mais... Je vous invite à y participer si le cœur vous en dit. Puis, est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, interrogations? Oui?
Moi, c'est pas les logiciels libres, mais j'aime beaucoup Photoshop.
Oui?
Est-ce qu'il y aurait une version en cloud?
Il existe une version en cloud de Photoshop, mais je...
Oui, t'as le premier Element. En fait, t'as les logiciels premiers. Là, ouais. C'est vraiment pro, puis honnêtement, moi, j'utilise Photoshop à peut-être 15% de sa capacité.
Ouais.
Puis, en fait, toutes les versions premières Element, tu peux les avoir. Moi, j'ai acheté un package du logiciel premier pour la vidéo et celui pour Photoshop sur TechSoup à 30$. Donc, t'as les deux.
TechSoup,
ouais.
C'est vraiment...
Ça vaut 120 piastres. Oui. TechSoup est intéressant. Sinon, il y a GIMP en logiciel libre qui peut...
Moi, c'est vraiment genre... Maintenant, j'utilise beaucoup Canva, mais le style de graphisme avec des affiches, c'est sur Photoshop.
OK.
Le GIMP est limité sur
Il est plus
ça.
Limité, oui.
Fait que c'est moins pour la retouche photo, c'est vraiment pour la création.
Ça, il y a Inkscape qui fait du vectoriel un peu comme Illustrator frais. Mais c'est possible que pour tes besoins, ça convienne juste pas, puis que ça, tu sais, première puisse faire la job aussi. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut être agnostique puis voir un peu c'est quoi nos usages. C'est vraiment en fonction de nos usages, en fait. C'est vraiment.
Mais des fois, dans le fond, on a. Tu sais, moi, j'ai commencé la Photoshop. Élément parce que j'en connais pas d'autres.
Ouais.
Probablement si on s'était rencontré il y a un an, puis je serais peut-être allé fouiller sur du logiciel libre, mais vu que je connaissais pas, puis c'est un peu, tu disais c'est la jungle, mais c'est un peu ça, tu sais pas trop. Donc je suis allée vers une valeur sûre en me disant ben là, c'est la version de plus modélisée.
Ouais.
Mais tu sais, moi j'aurais tendance à vouloir aller fouiller peut-être aujourd'hui là,
ouais.
Un peu plus dans le milieu aussi.
En marketing, on appelle ça la notoriété des marques. Là, ça fait en sorte que tu as comme un petit subliminal qui fait comme « Ah, ça, je connais ça! » Fait que c'est sécurisant. C'est ça. Puis il y a le fait aussi que des fois, on est habitué à l'interface. Puis quand on va dans une autre déclinaison, mais d'un même concepteur, disons, ça se ressemble quand même. C'est sûr qu'il y a toujours une courbe d'apprentissage. C'est quand on passe, exemple, de Photoshop à GIMP, les éléments ne sont pas exactement au même endroit, les choses ne sont pas nommées de la même façon aussi. Fait qu'il y a une période d'adaptation. Mais après ça, il y a des contraintes techniques aussi. T'sais, je sais, moi j'ai des amis graphistes, puis je sais que c'est le cas. Ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font dans Photoshop, dans le game, tout simplement. Fait que c'est peut-être ton cas aussi, puis c'est correct. Mais c'est ça. T'sais, tu peux voir TechSoup. TechSoup pas des bons trucs, parce que sinon, je pense qu'il y a une licence Adobe en cloud, là, comme toute la suite, mais c'est pas donné. C'est cher. C'est vraiment cher.
Tu peux l'acheter sur TechSoup, justement. Mais c'est pour ça que Adobe va être de plus en plus valable pour
l'informer.
C'est moins facile d'acheter quelque chose de physique que tu installes sur ton ordinateur. Oui, c'est ça. Je pense
C'est sûr que c'est plus rentable de charger au mois que de charger sur une copie que tu étires pendant 10 ans. Pour eux, en termes de modèle d'affaires, c'est sûr que c'est plus payant de charger au mois.
Mais une force.
Bon, on est toujours libre de faire ce qu'on veut, mais c'est sûr qu'ils orientent. Ils orientent.
C'est comme Windows, là, on l'a rendu à 10, là, le prochain sera 20, ou il n'y allait plus, là. Enfin, ils veulent notre argent, ils vont l'avoir.
Ah, ben c'est pas juste ça. C'est que je veux dire, c'est si on est pour partir, là, je partir. Si on part sur Windows, là, il est moins 5. Hein, on peut être là encore une heure. Là. Mais Windows, c'est que là, c'est ce qu'on sait. Puis c'est, on sait que c'est le cas aussi avec Mac. Puis avec de plus en plus de services comme ça. Surtout si on parle du, vraiment, tu sais, du système d'exploitation, c'est qu'ils vont chercher énormément d'informations sur ce qu'on fait. C'est vraiment le système Windows, surtout le 10. Et c'est comme un petit espion dans votre maison. Faut être clair. Apple, c'est le cas aussi.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher les endroits où tu. Les sites internet où tu vas?
Par exemple. Par exemple, ça peut être ça, ça peut être. Je ne suis pas informaticien de réseau là, pour dire vraiment quel type d'informations ils vont chercher, mais ça peut être des informations sur la navigation, ça peut être des informations sur les courriels qui sont rentrés. C'est vraiment, il y a des portes, des systèmes dans lesquels il y a des portes qui permettent de rentrer. Ce qui a beaucoup moins d'exemples sur Linux. Si on veut être paranoïaque.
C'est bon d'être un peu pour éviter de se faire tendre trop vite.
Ouais, c'est ça.
Les grandes compagnies, ils vendent ça sous un peu. Ils vont dire, on va ça. Ils disent que c'est convenient d'utiliser les services de location, par exemple. Si tu permets à ton téléphone intelligent de dire à Apple où tu es, et là, ça peut suggérer des restaurants ou des prochaines lignes de bus passent à telle heure, puis c'est convenient, mais c'est aussi que Apple se retrouve avec les informations, puis ils se servent de ça pour faire rouler leur c'est ça qu'ils vendent, en fait. C'est ça que les services comme Facebook. Ils offrent un service gratuitement, mais ils trafiquent les données des utilisateurs.
Il faut savoir que les données, c'est comme le pétrole du 21e siècle. Les données que ces grosses compagnies-là ont sur les utilisateurs, c'est une mine d'or, vraiment. Ça peut être assez peur. Je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais il y a une page là, sur Google où tu peux vraiment comme savoir les informations, tu peux voir les informations que Google a à ton sujet. Ou en tout cas celles qu'ils acceptent de te montrer. Ça peut être assez impressionnant, là. Genre, ça, gars, filles, âge, intérêt dans la vie, habitude de ci, de ça. Ouais. T'avais une question?
Oui, c'est juste pour savoir si vous connaissez un logiciel libre pour qui fait comme Adobe Premiere, en fait, métrage vidéo.
Je pense qu'il y a Kden Live qui fait ça. Oui, Kden Live, ça, c'en est un. Il y en a quelques-uns qui font du montage. Hey, attends, j'en ai installé un sur ma machine qui va pas si mal que ça.
OpenShot.
Je me demande. Comment?
OpenShot.
OpenShot aussi. Si tu veux, écris-moi. Puis j'essaierai de trouver celui que j'utilise. Moi, je suis sur Linux, mais je ne suis pas en ça. T'es sur quoi, toi? T'es sur Windows? Apple?
Windows,
OK. J'essaierai de voir s'il est disponible sur Windows. Thomas disait pour le son, Audacity est un classique, là, vraiment, ça va super bien.
Une recherche pour la vidéo. Oui, ça serait Adobe Premiere Element.
OK.
En fait, okay. C'est la même chose, c'est Element. Okay. Puis en fait, là, tu peux avoir jusqu'à 50 pistes si tu veux, puis tu fais ton montage. Tu peux avoir du montage, plusieurs montages audio les uns sur les autres, plusieurs montages de superposition vidéo aussi. Puis tu peux retoucher ton son, quand même tes lumières. C'est sûr que c'est moins performant que Adobe Premiere, mais encore une fois, moi dans mon milieu, ça suffit pour faire de la vidéo promotionnelle puis du mini-reportage. Mais ça dépend jusqu'où tu veux aller dans ce que tu vas faire en vidéo. Puis, moi, j'ai passé du temps à chercher en vidéo. Là. J'ai ramé longtemps, puis j'ai essayé plein de logiciels, puis je me suis planté plein de fois. Celui-là, c'est vraiment celui qui correspond le mieux. Puis justement, TechSoup, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a un package avec le Photoshop Element. Le premier Element, donc tu as à la fois la version Photoshop qui, moi, est adaptée à mes besoins communautaires et vidéo, puis ça coûte moins de 40 pièces.
Okay.
Donc tu risques vraiment rien du tout.
Ouais.
Puis, franchement, c'est cool, tu as même des animations, c'est pas juste du fondu enchaîné, tu as plein d'animations qui sont pas pic-pic non plus, c'est quand même cool, tu peux faire quelque chose de cool. Okay.
ça que ça sert de se rencontrer, t'sais. Échange d'informations, rencontre informelle. Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent amener quelque chose?
Moi, j'aimerais juste dire que c'est cool, je t'ai déjà dit, mais c'est vrai, en fait, j'aime ça. Je trouve que j'ai appris plein de choses. En tout cas, c'est sûr, tu vas passer une heure à fouiller demain. Puis, c'est chouette.
Génial. Yeah. Ouais.
Moi, je suis juste pour ajouter un petit bémol à l'aspect libre et de budget. C'est sûr qu'un logiciel libre, en général, c'est gratuit pour obtenir ce logiciel-là. Comme Karen avait mentionné, c'est pas nécessairement gratuit de l'installer ou de l'implémenter au sein de votre groupe. Si vous avez des gens qui sont habitués à un certain logiciel, ça prend une formation. Si c'est un logiciel qui a beaucoup de customization, c'est-à-dire beaucoup de configuration au préalable, il faut parfois embaucher quelqu'un. Ça veut dire plus de coûts au début de l'implémentation, même si à long terme, tu n'as pas de coûts à payer pour renouveler les services ou mettre à jour le logiciel. Parce que, en principe, ça, c'est gratuit. Il y a peut-être d'autres coûts à prendre en compte.
En parlant de l'implémentation, tout à l'heure sur la question de comment trouver quelqu'un pour le faire, est-ce que tu conseillerais d'avoir toujours quelqu'un qui est physiquement au même endroit, comme ça tu peux le rencontrer, ou la rencontrer et travailler ensemble, ou est-ce que ça peut, on peut se dire je trust puis je prends quelqu'un à l'autre bout du Québec parce que cette personne est statistique?
Toujours préférable de l'avoir quelqu'un en personne, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a des services, il y a des sites qui existent comme 5 minutes où tu peux comme embaucher un pigiste pour puis ils te chargent à tous les 5 minutes. En tout cas, puis tu vois, c'est des gens à l'autre bout du monde, puis bon, il y a quand même une fonctionnalité de réputation où tu peux lire les critiques sur la personne, mais c'est toujours préférable, à mon avis, d'avoir quelqu'un que tu peux rencontrer. Puis, c'est plus humain, finalement, même si ce n'est pas toujours possible. Si jamais tu as une question, peut-être tu peux me poster dans le groupe Facebook, puis on pourrait, entre nous trois, s'échanger, trouver quelqu'un, demander à nos contacts.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que vraiment le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un, tu sais, ou ne serait-ce que vraiment parler avec, mais tu sais, encore plus rencontrer physiquement, il y a comme un aspect de. La personne va être capable de mieux comprendre c'est quoi ton besoin, parce que des fois, on a un tel besoin, la façon dont on le formule, parce qu'on n'a pas les connaissances techniques ou quoi, mais quelqu'un qui vient te voir, qui, tu sais, qui voit un peu qu'est-ce qu'il y en est, va être capable des fois d'amener des éléments auxquels tu n'aurais pas pensé, versus si tu fais affaire avec quelqu'un, je sais pas, tu sais, qui est en Inde, puis que tu sais, tu sauves peut-être sur le coup de ça, mais après ça, tu sais, tu peux faire mal en ligner, ou tu sais, puis au final ça va te coûter plus cher ou quoi, puis après ça, bon, ça, on pourrait parler de mondialisation puis de cheap labor là, mais tu sais, c'est, je pense, c'est surtout le en termes de durabilité de l'intervention, de vraiment, tu sais, rencontrer quelqu'un qui est capable de vraiment prendre en compte, tu sais, ton besoin, le contexte, puis d'apporter une réponse à ça. Je pense que moi aussi c'est un bon investissement.